Chapitre 6, l'industrie, ou l'art presque subtil de ces deux.
Nous voilà donc rendus à quelques histoires, tournant toutes autour de, ne nous mentons pas, diverses guerres et conquêtes. Pourtant, il serait super réducteur de limiter la construction de nos identités européennes à une succession de conflits avec parfois quelques gagnants. D'ailleurs, quelques gagnants à l'échelle des puissants et des royaumes et des empires. Parce que, rappelons-le, la guerre, c'est mal, et l'immense majorité des gens en paye toujours le prix.
Et on parle de royaumes et d'empires d'Europe occidentale, mais tout ne se joue bien évidemment pas ici, dans le fil de l'histoire. Quelque part, au large de notre bonne vieille côte belge, alors encore dépourvue de quistax, se trame l'une des évolutions sociétales les plus marquantes de l'histoire, la révolution industrielle. Alors, vous en avez déjà longuement parlé avec vos profs d'histoire, et en première partie de cette année. Et nous ne ferons certainement pas mieux ici. Mais le but de tout ceci reste de tisser des liens entre les jalons de notre voyage, et c'est ce que nous allons faire. Alors, ce petit bout d'histoire, ce nouveau mythe, il commence donc au Royaume-Uni. C'est pas un hasard. Et à nouveau, on nous taxera d'obnubiler par l'oppression des peuples. Mais à cette époque, au XVIIIe siècle, l'empire colonial britannique il est en train de devenir le plus grand empire de l'histoire. Et il est à la pointe sur un sujet qui le met plutôt bien, la traite d'esclaves et le commerce triangulaire. Et c'est pas du tout le seul à le faire, mais il sera vraiment le plus important esclavagiste. Certaines sources citent 3 millions de transportés. Alors forcément, quand on les exploite, ça favorise l'émergence d'innovations technologiques et idéologiques.
À propos d'innovations technologiques, on pourrait en retenir deux complètement différentes. La machine à vapeur de James Watt en 1769, c'est le numéro gagnant du loto des technologies de l'époque. C'est tout simplement ce qui permet l'industrialisation. Votre prof de physique vous dirait « Avec l'énergie, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. » L'idée de Watt et de Lavoisier, c'est de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Faire chauffer des trucs pour entraîner des mouvements et exercer des forces. Et ça fait recette parce que là d'où il vient, Watt, il y en a en quantité industrielle une ressource qui, en brûlant, libère plein d'énergie thermique, le charbon. C'est ça, en très très gros.
Avec ça, on est bien parti pour augmenter massivement la production de richesses. Reste plus qu'à essayer de comprendre comment elle se crée, cette richesse, et on sera bon. Adam Smith, en 1776, il publie « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations ». On peut. Il y réfléchit à plusieurs choses qui vont influencer le monde économique, jusqu'à la construction même de l'Union européenne. Une de ses premières choses, c'est la division du travail, la spécialisation des gens dans leur activité, qui leur permet d'être plus productifs et de rendre de ce fait le monde meilleur. N'y allons pas par quatre chemins. À Blény, le type qui casse des bouts de charbon à 100 mètres sous terre n'est pas celui qui gère les allées et venues des berlines. Ni celle, parce que oui, ce sont souvent des femmes, on l'a vu à Blény, qui trient le précieux minerai. Et ce n'est pas non plus évidemment les mêmes personnes que celles qui gèrent tout ce petit monde. La division du travail rapporte plus de mailles. Probablement que c'est surtout le bout de la chaîne qui envoie le plus les fruits, mais ça, on n'en parlera pas trop. De plus, pour Adam Smith, une autre idée importante, c'est que les gens ne sont guidés que par leur égoïsme. Et il écrit que c'est même précisément cet égoïsme qui est à la base d'une bonne organisation de la production de la richesse et de bien-être. En très très gros.
Bref, ces idées ne vont pas mettre bien longtemps à percoler dans l'Europe. Un peu de proche en proche. Et de l'autre côté de la mer du Nord, il y a un petit pays qui émerge en 1830. Là, on y trouve déjà des filons de houille et de minerais divers, à Blény, dont on a déjà parlé ici, mais aussi au Bois du Casier, dont vous avez vécu une mise en scène du drame dans la pièce de théâtre Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune. Et en fait, depuis déjà la fin du XVIIIe siècle, l'exploitation de ces filons se met en marche à grande vitesse pour répondre à un besoin des big boss de l'industrie naissante. De Mons à Verviers, la région wallonne est particulièrement riche en ressources et les gens sont déjà très au taquet pour se mettre en mode économie secondaire basée sur l'industrie et non plus sur l'agriculture. Partout, la mécanisation rendue plus efficace par la machine à vapeur de James Watt permet d'extraire toujours plus de ressources. C'est le début de la croissance économique moderne. Alors, ça donnera longtemps une avancée économique et un rôle de puissant ou francophone par rapport aux flamands. Ce ne sera pas éternel. Notez que là-dessus, on se met tellement bien que la Belgique est, à l'époque, la deuxième puissance économique mondiale pendant une bonne partie du XIXe siècle, derrière le Royaume-Uni. Et pas la deuxième proportionnellement à la population. Non, 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 on est vraiment les deuxièmes producteurs de moulins.
Tout ça, vous l'avez vu aussi à la Calamine, là où on extrayait le zinc. À Plombières, qui tire son nom du plomb. Vous le voyez aussi probablement tous les jours où vous sortez du centre-ville de Liège. À Angleur, dans la vallée de l'Ourthe, où se trouvaient les usines qui traitaient le zinc. Vous l'avez vu encore quand vous avez assisté au spectacle Ardent Symphonique, qui montrait le déclin de cet outil industriel qui concrétisait les rêves de prospérité d'une région, la région wallonne. Toute cette opulence, on l'a déjà dit pour les Rosbif, ça ne se fait pas tout seul. Si l'empire colonial anglais se dope à l'esclavage, ce n'est pas encore le cas pour la Belgique naissante. C'est seulement à partir de 1885 que Léopold II prend possession personnellement de ce qui est devenu le Congo. En Belgique, donc, le développement de l'industrie, il se fait plutôt par le terreau propice, par une situation idéale au centre des grandes puissances européennes en formation, Royaume-Uni, France, Allemagne. Et il faut bien le dire quand même, par l'exploitation des milliers d'ouvriers belges, puis étrangers, encore à l'époque très peu conscients de leurs conditions, avec des droits sociaux aussi réduit que l'espace vital d'Harry Potter à Private Drive.
D'ailleurs, l'Allemagne va vachement s'industrialiser aussi dans la foulée de la Wallonie. En particulier la région de la Ruhr, et plus généralement la Rhénanie, la partie frontalière à la Belgique. Le mot Rhénanie d'ailleurs vient du mot Rhin. Cette Rhénanie, elle a un peu les mêmes ressources. Et avec le besoin de jouer les muscles de l'Empire allemand qui naît en 1871, vous imaginez ce qui se passe. Parce que tout ça est assez intimement lié. L'émergence d'États-nations forts, qui mettent de plus en plus de choses en place pour dominer les autres, c'est une suite assez logique des révolutions industrielles. Et ça ne va pas sans mal pour les conditions de vie de Henri, Giovanni et Oscar, qui finiront usés par la machine industrielle et ses dragons. Rappelez-vous, notre enquête consiste à réfléchir à ce qui fait tenir le mythe européen. Ce qui, par-delà les frontières, unifie des peuples qui ne parlent pas la même langue, n'ont pas nécessairement la même religion, n'appartiennent pas aux mêmes empires. Or, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, le point commun, ou plutôt ce qui distingue du reste du monde, c'est qu'en une poignée de décennies, on va faire sa petite révolution industrielle autour de l'acier et du charbon. Se construire autour d'un modèle économique et de sentiments nationalistes.